Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, comment ça va Sidonie?
Super, en forme.
Le
et vous Thomas
bon?
Délicieux et vous?
Bah oui, parfait.
Salut à vous les curieux, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité. À vous, au programme, un génie de la danse. On va vous raconter l'histoire de Rudolf Nureyev. Comment il a fui le KGB? Comment il est devenu directeur de l'Opéra de Paris? Imaginez le scandale. Et comment il a nommé les étoiles les plus jeunes du monde?
Et puis dans cette émission, vous le savez, vous pouvez réagir au 3210 sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL.
Posez-nous des questions,
c'est
dès
Diane,
maintenant.
C'est Diane qui attend vos appels. Tiens, par exemple, pour réagir à ce thème, une grande saga, celle des marques familiales, les Noah, Chaplin, Belmondo, Chédid, Gainsbourg, Higelin, j'en passe et des meilleurs, ou quand un grand nom se perpétue de génération en génération. Et maintenant, on vous souhaite une bonne année.
La curiosité est un vilain défaut.
Lundi 8 février marque l'entrée dans le Nouvel An chinois et l'on célèbre cette fois le singe.
Jusqu'à 22h.
Cet événement se caractérise par de multiples festivités dans toute l'Asie du Sud-Est.
RTL.
Je crois en un avenir meilleur avec les grands dirigeants politiques que nous avons élus. Dans le monde entier, la diaspora ne sera pas en reste, en Europe ou encore en Amérique, notamment à New York.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est donc le Nouvel An chinois que l'on célèbre ce soir dans la curiosité. Un événement pour les centaines de milliers de Parisiens, Lyonnais ou Lillois d'origine chinoise et surtout pour le pays le plus peuplé de la planète. On vous raconte comment un humain sur cinq fait la fête en ce moment avec Emmanuel Linco. Bonsoir.
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 Bienvenue. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de la Chine. Je dis un humain sur cinq, ça fait combien de personnes, ça, à peu près? Il y a combien?
1 400 000 000 d'habitants.
Ouais, en Chine. Ouais, plus en Chine. Tous les expatriés.
Plus les expatriés, c'est-à-dire 70 millions de personnes. Vous avez l'équivalent de la population française à l'extérieur des frontières chinoises. Ouais. C'est la première diaspora du monde.
C'est la plus grosse fête du monde en ce moment, alors.
Ben voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans la curiosité. C'est donc une période faste pour les agences de voyage et les compagnies ferroviaires.
Il ne faut surtout pas aller en Chine à ce moment-là, pendant une semaine. C'est l'anarchie intégrale, c'est-à-dire que le nord de la Chine va dans le sud et réciproquement. Et vous avez à peu près 3 milliards de déplacements. 3 milliards de déplacements, je ne sais pas si vous imaginez.
On a du mal avec un chiffre aussi gigantesque, évidemment. Ça donne ces images d'embouteillage les plus monstres de l'année, les records d'embouteillage, c'est en ce moment en Chine, c'est ça?
Exactement.
Sur les autoroutes.
Ça donne lieu également à toutes sortes de négociations pour acheter son billet, même à des prix absolument déments, parce qu'il faut absolument participer à cette fête familiale qui est une fête sacrée, et au moins une fois l'an, il faut retrouver évidemment ses parents. Ça, c'est absolument essentiel.
Ça veut dire, Emmanuel Linco, qu'en ce moment, en Chine, pour cette nouvelle année chinoise, tout s'arrête, les entreprises, les administrations?
Quasiment. Pendant une semaine, le pays est en panne. Alors, il faut savoir qu'au début des années 90, la Chine a obtenu ses 15 jours de congés payés. Finalement, il est de bon ton de ne pas prendre ses congés. En revanche, cette semaine-là est une semaine absolument sacrée.
Alors, on va vous faire un aveu. On connaît pas très très bien cette tradition, c'est pour ça qu'on est curieux et qu'on fait cette émission avec vous, Emmanuel. La date du Nouvel An chinois, c'est quand exactement dans le calendrier?
Ça change chaque année parce que c'est lié au calendrier lunaire. Et donc, cette année, ça commence le 8 février, donc bonne année.
Vous dites ça commence parce que ça dure plusieurs jours?
Xin'an hao.
Merci.
Merci. De même.
On va pas se lancer. Hein.
Vous dites ça commence le 8 février, mais ça dure combien de temps?
Alors, ça dure 15 jours. 15 jours pleins, mais la première semaine est très très importante et surtout le premier jour en définitive. Symboliquement, c'est très important. Ça donne lieu aussi à des échanges très très importants, même dans les administrations, dans les entreprises. On se doit, lorsqu'on est entrepreneur, de remettre une petite enveloppe rouge, le rond bas. Très très important, avec de l'argent bien sûr dedans.
Pour faire la fête.
Pour faire la fête. Et comme le dit si bien et joliment les anthropologues, il s'agit de lubrifier ses relations sociales. Et donc laver même toutes ses dettes, à la fois morales et financières, pour marquer le coup.
Alors, et Emmanuel Linco, chaque année, si je ne me trompe, chaque nouvelle année porte un nom d'animal. En Chine, c'est l'année du singe. Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que chaque animal a une signification?
C'est très important, ça se perd dans la nuit des temps pratiquement. Et l'année du singe, c'est important parce que pour les Chinois, d'un point de vue des superstitions, c'est une année à la fois chaotique mais en même temps, le singe, on le sait bien, est malin. On dit bien malin comme un singe en français. Et donc, le singe balaye tous les obstacles devant vous. C'est l'avatar, en fait, d'Hanuman dans les légendes indiennes. Mmh. Et donc, c'est un personnage, évidemment, très, très important et que l'on vénère particulièrement.
Et moi, je suis né, par exemple, en 66, année du cheval de feu. J'ai retrouvé ça.
Ah, c'est tout.
Oui, merci. Il y a toujours un animal associé à un élément, c'est ça,
dans le
Nouvel An chinois.
Et cela se répète tous les 12 ans. C'est très, très important.
C'est quoi les éléments ?
Les éléments, ce sont les grands éléments naturels. Ouais. Et en fait, vous avez là véritablement un calendrier qui coïncide avec les religions primaires chinoises. Et l'une d'entre elles, la plus importante, la plus vivace, c'est le taoïsme, précisément.
Donc j'aurais pu être cheval de terre, par exemple, puisque les éléments, c'est quoi ? Terre, eau, feu ?
Feu, ouais. Bien sûr. Ça dépend également de votre heure de naissance.
Ah.
Ça, c'est très important.
D'accord.
Donc il y a des calculs très, très savants. Mais une chose est certaine, c'est que votre caractère est déterminé, effectivement, par ces signes.
Vous nous dites...
Vous y croyez, pardon, Sylvie, ouais.
Moi, j'y crois profondément.
Ah oui, oui. À l'astrologie, ouais. Et particulièrement l'astrologie chinoise.
Disons que c'est une façon de penser le monde et d'établir des signes également et de deviner ce que l'avenir sera. Et il y a, de fait, des choses parfois troublantes.
Alors justement, vous dites, Emmanuel Linco, que les Chinois célèbrent cette année l'année du singe de feu. Vous avez dit en un mot, c'est une année un peu compliquée. Pourquoi ? Quelles croyances ? Quelles sont les prédictions qui y sont associées ?
On le sait bien, si on revient à des considérations beaucoup plus prosaïques, la Chine entre dans une période de récession relative, certes, d'un point de vue de son économie, des tensions avec ses voisins, des tensions bien sûr avec les États-Unis. Donc, période d'incertitude, période de raidissement également pour Xi Jinping, le président chinois, par rapport aux dissidents. Et donc, c'est une période effectivement difficile et on a même l'impression d'une forme de poutinisation du régime chinois. Donc, un régime de plus en plus autoritaire avec des relents de maoïsme qui font penser que le régime, effectivement, pourrait opter pour des solutions assez extrêmes.
Sacrée année à suivre, en tout cas, cette année du singe de feu. Le matin du Nouvel An, si on entre vraiment dans les festivités maintenant du Nouvel An chinois, on commence par quoi ? Honorer les ancêtres, c'est ça la première étape ?
Oui, c'est très important. Et en cela, donc, c'est une fête religieuse de ce qui vous relie en tant que vivant aux ancêtres, à ceux précisément qui vous ont précédé. Et ça, c'est absolument fondamental. Et vous aviez une très belle formule d'un grand poète français, Victor Ségalen, un breton, Victor Ségalen en français, qui disait ceci, « L'homme chinois est un homme continuel ». Et donc, effectivement, il y a un continuum qui est établi entre les périodes les plus anciennes et la période actuelle. Donc, on vénère les ancêtres, c'est très important.
Alors nous, on va être très prosaïque, on va vous demander dans un instant quels sont les plats qui sont servis pour le réveillon lors du Nouvel An chinois.
Et chaque cheval de feu.
Voilà, il est prosaïque, le cheval de feu. Chaque plat, chaque mets a une signification, là aussi. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité de découvrir le Nouvel An chinois. C'est aujourd'hui que les Chinois du monde entier entrent dans l'année du singe de feu. Notre invité Emmanuel Linco, spécialiste de la Chine, nous sert de guide dans les cérémonies et les festivités qui se déroulent dans toutes les grandes villes du monde où les Chinois ont essaimé au fil des siècles. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Diane attend vos appels au 3210. Vous pouvez aussi nous écrire sur rtl.fr. Vous avez vos habitudes. Emmanuel Linco, la communauté chinoise à Paris, c'est combien de personnes ?
C'est 700 000 personnes. Donc c'est la première communauté chinoise d'Europe. C'est très très important. Et c'est une communauté qui est établie en France depuis la guerre de 14, qui a fait souche dans le triangle de Choisy, donc le 13e arrondissement. Et c'est assez émouvant parce qu'on célèbre en même temps le centenaire de la guerre de 14. Les premiers Chinois qui ont été envoyés sur le front de la Somme, et dont on voit d'ailleurs des cimetières militaires dans les régions de l'Est de la France, certains sont morts malheureusement dans ce contexte, d'autres plus heureux ont fait souche en France et se sont mariés avec des Françaises.
Ça veut dire que le 13e arrondissement parisien va être en fête, est en fête en ce moment ?
Absolument, oui, c'est très très important, bien sûr.
Il y a de nombreuses autres villes françaises, évidemment, où vivent des Chinois. Quelles sont les plus grandes communautés chinoises dans les autres grandes villes de notre pays ?
Vous avez Marseille, bien sûr, et là, il y a un déterminisme, évidemment. C'est un grand port, donc c'est une voie de passage, évidemment. Et il faut rappeler que ces communautés chinoises d'aujourd'hui sont essentiellement des communautés dites de Wenzhou, c'est-à-dire donc la région, grosso modo, du sud de Shanghai. Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce qu'à l'époque de l'Indochine française, il s'agissait évidemment de communautés chinoises du grand sud de la Chine, donc Sichuan et surtout région de Canton. Et donc aujourd'hui, on a essentiellement des gens de Wenzhou.
Alors moi j'ai dit Lyon et Lille, parce que j'avais lu ça en préparant aussi. L'émission, ce sont aussi des capitales françaises où il y a une communauté chinoise relativement importante.
Et Lyon d'ailleurs, il faut le rappeler, est le dernier poste le plus avancé dans l'Occident des routes de la soie. Ça aussi, c'est très très important. Et c'est pas le fait du hasard, souvenez-vous-en. Il y a quelques mois, Xi Jinping s'était rendu précisément à Lyon. Parce que le symbole était fort et il y avait même, dans les années 20, un institut franco-chinois de Lyon. Mmh. Donc toute une partie de l'élite chinoise de l'entre-deux-guerres a été formée dans la capitale des Gaules. Mmh.
On va parler gastronomie, Emmanuel Linco. Comment s'appelle le repas du Nouvel An ? Est-ce qu'il porte un nom, tiens, d'ailleurs ?
Oui, c'est un repas où, en particulier, on va déguster des pâtes. Et les fameux raviolis, les tiaotse. Pourquoi ? Parce que c'est symboliquement, le tiaotse renferme finalement toute la substance du monde, si vous voulez. Donc on assiste symboliquement à la création du monde. C'est un peu comme la fève que vous mettez dans une galette, et on le sait, c'est un symbole très ancien qui, lui, est originaire de l'Asie centrale. D'ailleurs, peut-être que ces fêtes chinoises que nous célébrons encore aujourd'hui sont peut-être, elles aussi, des fêtes originaires de l'Asie centrale. Donc, on célèbre par là même le retour du printemps, ce que les Chinois appellent le Chuntie.
Donc, le Nouvel An, c'est le retour du printemps. On s'y perd un peu, là.
Oui, c'est déjà le printemps, définitivement.
C'est pas tout proche.
On le sent pas tellement, mais déjà, la nature, d'un point de vue cyclique, est en train de changer.
C'est un repas qui doit durer jusqu'à l'aube. C'est vrai qu'il doit être... C'est vraiment une profusion de mets et il faut que ce soit le plus long possible.
Ça doit durer longtemps et c'est une façon de conjurer le mauvais sort aussi. Parce que ne jamais oublier que la Chine, c'est encore un pays rural, même s'il y a de moins en moins de ruraux. Mais c'est un pays aussi qui a traversé des crises tout à fait considérables depuis un siècle et demi, si vous voulez, avec à la période de Mao, le grand bond en avant, ses 40 millions de morts, liés à des famines tout à fait considérables. Donc le Nouvel An, c'est une façon de préparer, évidemment, l'année qui vient, de faire bombance et d'annoncer par là même des récoltes, si possible, les plus riches possibles.
Alors pour fêter tout ça, j'imagine qu'il y a des plats, des mets absolument incontournables pour ce
Donc
Nouvel An chinois.
Donc les raviolis, ça c'est très important dans toute la Chine du Nord. Les pâtes également, que l'on appelle les shou mian, c'est-à-dire littéralement les pâtes de longévité. Et comme vous le savez, ce sont les Chinois et non pas les Italiens qui ont inventé les pâtes.
Ah, ça veut dire que les nouilles, la longueur des nouilles, ça symbolise la longévité aussi.
C'est la longévité.
C'est aussi cette idée de lien, c'est ça ? On est toujours
aussi,
dans...
Aussi, tout à fait. Très justement vu, absolument. Oui, oui, la filiation.
Est-ce qu'il y a du poisson aussi dans ce repas de Nouvel An chinois, Emmanuel Linco ?
Guerre, en fait, c'est surtout des repas de viande qui sont célébrés dans la Chine rurale parce que, justement, c'est une façon, comme on disait en vieux français, dans nos vieilles campagnes, de faire gras. Donc on mange de la viande, on n'en mange pas souvent, traditionnellement, mais cette fois-ci, on marque le coup, bien sûr.
Et il y a du bambou dans ce repas de Nouvel An chinois.
Oui.
C'est de la déco qu'on le mange ?
Ah, nullement, nullement.
On fait les béotiens.
Oui. Le bambou en chinois se dit zhu, et c'est un homonyme parce que les langues chinoises sont assez pauvres en nombre de syllabes, et c'est un homonyme d'un verbe qui signifie célébrer. Donc par là même, vous célébrez celui qui vous est proche, votre voisin, mais aussi votre filiation.
Bon, on continue de se passionner pour le Nouvel An chinois. Guy de Paris nous dit il y a le Nouvel An chinois, mais aussi le Nouvel An vietnamien en ce moment. La fête du Tet qui marque la fin d'une année lunaire. Ici, l'image du Nouvel An chinois, je ne sais pas pour vous, Sidonie, mais c'est la grande parade qu'on voit, notamment à Paris, avec ce dragon-là impressionnant. Ben, on va vous raconter son histoire.
Dans un instant, retour de la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité. curiosité est un vilain défaut.
Ah, le nouvel an chinois. Alors, si t'es pas chinois et que t'habites dans le 13e, je suis désolé. Entre le défilé la journée et le karaoké le soir, pour dormir, t'es bien dans la merde.
Jusqu'à 22h.
Nous, les Asiatiques nouvelle génération, on sait pas trop à quoi ça correspond non plus le nouvel an chinois. On sait juste que t'es invité partout à bouffer. C'est généralement, c'est à cette période que t'as des membres de la famille qui renaissent. T'es invité à gauche à droite, hein, le fils du père du neveu.
RTL.
La seule raison pour laquelle t'y vas, c'est pour les rombans. Alors les rombans, c'est ces enveloppes rouges avec de l'argent dedans qu'on t'offre à tous les nouvel an chinois.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Lundi 8 février, c'est l'année du singe de feu qui commence pour les Chinois du monde entier. Et on commence par un grand rire avec le rire jaune. C'est ce YouTuber, ce collectif de YouTubers dont on a choisi un extrait. On vous raconte la signification de ce nouvel an chinois qui mobilise, vous le savez, un humain sur cinq. On est avec Emmanuel Linco, qui est professeur à l'Institut catholique de Paris. On va raconter la grande parade. C'est sans doute le symbole le plus spectaculaire de ce nouvel an. C'est le dragon qui est au cœur de cette parade. Il symbolise quoi, le dragon ?
Alors, le dragon, au contraire du dragon occidental qu'on voit sur les peintures du Moyen-Âge, dans nos églises, etc.
Qui nous fait peur.
C'est la vilaine bête que Saint-Georges, n'est-ce pas, terrasse de sa lance. Eh bien, le dragon chinois est très sympathique et surtout, il ne crache pas du feu, il crache de l'eau. Et donc, c'est la raison pour laquelle, partout dans le monde chinois, Japon, Vietnam, Corée compris, vous le voyez au sommet des toitures, des palais, etc., parce qu'il conjure évidemment les incendies. Et puis, c'est l'animal auquel on s'identifie, parce que c'est un animal qui donne de l'énergie, du qi. Le qi qui vient des tripes, n'est-ce pas ? Mmh. Et donc, c'est l'animal de l'empereur, par définition. Donc, c'est pas la vilaine bête, encore une fois, c'est un animal tout à fait sympathique et important.
En Chine, où est-ce qu'on peut découvrir la plus belle parade, Emmanuel Linco ?
Un peu partout, et je dirais surtout en dehors des grandes villes à présent, parce que pour des raisons de sécurité et la peur, vu que c'est un régime autoritaire, bien sûr, la peur de débordement politique, ces manifestations sont très très étroitement contrôlées, donc pas de pétards, pas de débordement, etc.
Il y en a quand même dans quasiment toutes les villes et tous les villages de Chine ?
Ouais. Et il faut surtout aller en milieu rural pour voir des choses vraiment belles.
La plus belle des parades, Emmanuel Linco, elle a eu lieu pour le nouvel an 2004.
En France.
C'était en France, bien sûr.
Oui.
C'était pourquoi en France hein.
C'était l'année de la Chine, voilà. Et puis c'était les années Chirac, rappelons-le, un grand ami de la Chine, n'est-ce pas ? Et c'était les années croisées France-Chine. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de manifestations de ce genre.
Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ? Il y a eu des parades incroyables.
Ah oui,
Chirac, c'est pas déguisé en dragon.
Je me souviens de la tour Eiffel complètement rouge.
Oui, tout à fait.
C'était assez beau.
Et puis il y avait des manifestations finalement qui l'avaient pour le régime chinois. C'était une sorte de complaisance, disons-le, de la part des autorités françaises, qui l'avaient le grand déshonneur de 1989, lorsque François Mitterrand et Jacques Lang avaient fait défiler sur les Champs-Élysées des dissidents chinois, justement, pour commémorer la Révolution française, le bicentenaire. Et donc, Chirac avait lavé ça, d'une certaine manière. Et bon, alors, ensuite, on peut critiquer, etc. Mais en tout cas, 2004, effectivement, a été une sorte d'acmé, si vous voulez, dans les bonnes relations franco-chinoises.
Mmh. Un nouvel an chinois sans pétard, c'est pas possible.
Ah, c'est impossible. Il faut que ça pète dans tous les sens, parce que c'est l'esprit même qui s'en dégage, si vous voulez. Et par là même, on marque le commencement du nouvel an, le commencement d'une ère nouvelle.
Parce que ce sont les Chinois qui ont inventé les pétards ?
Ils ont presque tout inventé, et notamment la poudre en effet.
Ouais. Et alors faire exploser des pétards, ça signifie quoi ? C'est une manifestation d'énergie, de joie ?
D'énergie et puis une capacité d'être en phase avec les éléments. On évoquait en introduction justement la culture des éléments. Ça, c'est très important. Vous avez une culture d'alchimiste, en fait, de gens qui savent jouer avec le feu et qui, culturellement, on le sait bien, savent prendre des risques aussi.
Mmh. Et puis, il y a une idée de concurrence aussi, c'est ça ? Les soirs de Paris, il y a des compagnies qui se font la guerre presque, qui font des battles comme au carnaval de Rio.
Oui, c'est un peu ça. C'est très latin, en fait. Et les Chinois, justement, sont de grands anards et de grands libertaires. Et ils aiment beaucoup, justement, les joutes verbales et ce genre de manifestations, ces jeux. Ce sont de grands joueurs, on le sait bien.
Donc ça se prépare toute l'année, en fait,
nouvel an chinois.
Quand on imagine ces compagnies, moi, ça me fait penser au carnaval de Rio avec, pareil, des groupes qui mobilisent des centaines de personnes.
Tout à fait.
Les costumes, les dragons.
Vous avez absolument raison.
Ça peut faire quelle taille un dragon dans une
parade ? Ça peut faire des dizaines de mètres et on ne pourrait pas, en aucun cas, déroger, si vous voulez, dès lors où un comité de quartier organise sa propre manifestation, et bien évidemment, elle est concurrente par rapport à une autre, et donc il faut être les premiers. Donc c'est très important, il y a un challenge comme ça, permanent.
Le Nouvel An chinois, vous l'avez compris, ce sont des dragons, mais aussi des lions, des souris et des lanternes. On vous explique tout ça dans un instant dans la curiosité. Restez avec nous.
Avec RTL, cultivez votre curiosité.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Bienvenue en Chine sur RTL à l'occasion du Nouvel An chinois. C'est l'année du singe de feu et on va lancer quelques pétards pour fêter ça. Mais oui, dans notre studio de curiosité avec notre invité Emmanuel Linco, spécialiste de la Chine et professeur à l'Institut catholique de Paris.
On rouge notre studio, c'est une couleur importante.
Oui, de bon augure, voilà.
Il ressemble presque à un dragon, ces dragons qu'on peut voir dans ces parades à l'occasion de ce Nouvel An chinois. Il n'y a pas que le dragon comme animal, il y a aussi des souris et même des souris qui se marient. Mais c'est quoi cette histoire ?
Alors là aussi, vous avez des rapports d'homonymie, des jeux de langage. La souris, comme le rat, se disent Lao Shu, qui signifie, vous reconnaissez le chou dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être l'homonyme de longévité, mais c'est aussi la petite bestiole en question. Hein. Et donc, le mariage des souris, c'est une façon aussi de souhaiter une harmonie totale entre l'homme, l'univers, toutes les créatures, etc. Et le mariage des souris, d'après les superstitions locales, si vous voulez, même les souris qui vous embêtent tout au long de l'année dans votre appartement, eh bien, vous n'y touchez pas. Elles sont sacrées également. Donc, grand moment d'harmonisation.
Mais attendez, on marie qui ? De vraies souris ou c'est des souris en papier ?
Alors oui, vous avez aussi des petites souris en papier que l'on fabrique, ouais. Mais c'est aussi une façon en fait, de symboliser l'harmonie en fait, de l'univers.
Mais on ne les marie pas, parce que j'aimerais bien comprendre à quoi ça ressemble.
En fait, pendant ce... Je ne sais pas, c'est une image, j'imagine, le terme de mariage des souris.
Image.
Mais pendant cette semaine de festivité, il y a quoi ? Il y a une journée où on laisse des restes pour les souris, c'est ça l'idée ?
Oui, alors au-delà, si vous voulez, on conjure là aussi le mauvais sort, dans le sens où donner des restes de nourriture, etc., c'est une façon aussi de composer avec le surnaturel. Et là, on entre dans des considérations très sérieuses et un peu flippantes, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent et de la nourriture pour les fantômes et les spectres, qui sont très nombreux. Ce sont tous ceux que les anthropologues appellent notamment les mâles morts, les suicidés, les accidentés de la route, que sais-je, etc. Et il faut faire écran, symboliquement, entre le monde des vivants et le monde de ces mâles morts. Et donc, on va donner de la nourriture, comme ça, aux quatre coins de la maisonnée, pour être sûr d'avoir la paix, si vous voulez. Parce que ce que l'on redoute par-dessus tout, et c'est un monde très ségrégué, très discriminé, c'est que chacun ne soit pas à sa bonne place, vous voyez, dans la hiérarchie sociale, mais aussi dans la hiérarchie du monde, du cosmos, hein, n'ayons pas peur des mots.
C'est mal mort, c'est un mot absolument magnifique, et effroyable aussi, quelque part. Et un autre animal que l'on voit...
Ça me
voit...
fait penser à Harry Potter, moi.
Oui, moi aussi, je ne sais pas dire. On est un peu occidentaux.
On n'est pas loin. Pas loin du fantastique, ouais. Et effectivement, et le cinéma fantastique de Hong Kong est l'un des cinémas les plus créatifs, les plus extraordinaires, avec des histoires de fantômes, justement. Il y en a partout.
Et des histoires de lions aussi, parce que dans ces parades pour fêter le Nouvel An chinois, on voit des lions.
Oui, alors le lion, là aussi, c'est pas la vilaine bête. Hein, c'est un animal plein d'énergie, qui donne de l'énergie à celui justement qui s'arroge sa force. Et vous l'avez sans doute vu à l'entrée de n'importe quel sanctuaire, que ce soit des sanctuaires religieux, ou bien la cité interdite à Pékin, la cité impériale, vous avez des lions. Alors, pour être plus exact, vous avez le lion et la lionne. Donc le yang et le yin. Mmh. Et donc il s'agit d'harmoniser évidemment les contraires. Et ils sont aussi contraires que complémentaires. Voilà. Et ça c'est très important. Il faut harmoniser ses rapports avec la nature et ses rapports avec autrui.
On va aller faire un tour à Hong Kong si vous voulez bien, Emmanuel Linco. On a appelé tout à l'heure un Français, un magicien, c'est son métier, hein, qui travaille beaucoup en Asie pour des grandes marques de luxe. Il s'appelle Damien Bertrand. Il est en vacances à Hong Kong en ce moment pour le Nouvel An. Et il nous raconte sa première impression quand il a découvert la ville de Hong Kong ce matin du 8 février.
L'ambiance dans la ville, c'est une ambiance très particulière pour les gens qui connaissent Hong Kong, qui est une ville qui grouille habituellement. Eh bien, c'est une ville qui, aujourd'hui, s'est vidée pour la plupart de ses artères, son tram, ses rues. Il y a très peu de monde dans les rues Et en réalité, les Chinois sont en famille et ils préparent le réveillon qui se déroule aujourd'hui. C'est le premier jour des festivités. Et les gens se regroupent aussi dans les parcs et dans des lieux d'attraction. Donc c'est très animé, notamment sur les bords de la mer. Et ils organisent des parades, des carnavals. Donc on sent vraiment une atmosphère particulière et on sent qu'il va se passer quelque chose.
Mais sinon, est-ce que la ville est particulièrement décorée ou pas ?
Alors oui, il y a des illuminations, notamment la nuit, sur les immeubles. C'est très impressionnant. C'est déjà impressionnant en temps normal de voir Hong Kong éclairé. Mais là, on a des immeubles entiers avec des lanternes rouges. Le rouge, c'est une couleur qui porte bonheur. Et les Chinois sont particulièrement superstitieux. Donc ils essaient de chasser les mauvais esprits. On entend d'ailleurs des pétards dans toute la ville, parce que c'est un moyen pour eux de chasser les esprits, les mauvais esprits en tout cas, et la couleur rouge qui est très présente, et ces illuminations et ces lanternes qu'on retrouve dans les rues, il y a des rues entières décorées comme ça, c'est très joli, très féerique.
Donc la ville est vide, ça doit être effectivement assez saisissant, parce que les Hongkongais sont réunis en famille, et vous avez eu la chance de participer à l'une de ces réunions de famille, c'était je crois ce matin, un petit déjeuner, comment ça s'est passé, décrivez-nous.
Alors c'est un petit déjeuner dans une famille hongkongaise typique, la famille Chung, qui nous a reçus autour d'une table ronde, puisqu'on déjeune toujours autour d'une table ronde en Chine, et toutes les générations sont réunies autour de la table. Il y a la grand-mère, les parents, les petits-enfants, donc trois générations, et on partage un moment très convivial. On mange que des plats végétariens, parce que c'est un moyen pour eux de se purifier, de ne pas manger de viande, donc on ne mange que des légumes, des galettes à base de blé, de tofu, des nouilles, et puis ils nous servent évidemment les traditionnels bonbons, parce que c'est quand même la fête. Et puis il y a une dernière chose aussi amusante, c'est qu'on reçoit en tant qu'invité des enveloppes rouges, toujours le rouge bien entendu, et des enveloppes remplies d'argent. Donc on est invité chez des gens et ces gens nous offrent de l'argent, c'est de la monnaie en forme de papier, des billets de banque qui sont tout neufs, et c'est un moyen pour eux de nous souhaiter une bonne chance pour le démarrage de cette année du singe, de cette nouvelle année chinoise.
Merci beaucoup Damien Bertrand, le rouge va nous porter chance aussi ici à RTL. Bon vent à vous pour ce nouvel an chinois à Hong Kong.
Merci Thomas.
Ah, Damien Bertrand qu'on a donc enregistré tout à l'heure. Emmanuel Linco, ce petit déjeuner dont il parle, là on est vraiment dans la tradition typique de la famille. C'est quoi ? C'est le petit déjeuner du matin du Nouvel An ? C'est une tradition ça ou c'est une chance qu'il a eue d'y assister ?
Non, c'est vraiment rituel et effectivement on se purifie le corps. Mais en même temps, ce qui est intéressant comme témoignage et qui complète le nôtre, si vous voulez, c'est qu'on a là vraiment des traditions culinaires du Sud, du Grand Sud, et on se rapproche notamment du Vietnam. Alors que dans l'extrême Nord, où on a une tradition basée sur l'alimentation de céréales et de viande, eh ben on fait gras précisément. Vous voyez, là, ce sont les différences. Malgré tout, il faut le rappeler, la Chine, c'est immense.
Hein, oui,
c'est 19
sûr.
Fois la France, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est un rituel familial avant tout. Et la famille, c'est le dernier rempart avant les immixtions et l'entrisme, très souvent très dérangeant, bien sûr, du pouvoir. C'est une façon de faire bloc entre soi contre le pouvoir. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de dire sa joie en public par la suite, en participant aux manifestations qui ont été décrites.
Emmanuel Linco, souvent on voit des... Ah non, c'est fini, c'est ça.
C'est quasiment fini.
Des questions.
Un petit mot des lanternes. Sur les lanternes, quand même.
On les voit fleurir un petit peu partout, ces lanternes. Quelle signification elles ont ?
Là aussi, c'est l'annonce du nouvel an qui vient. Et donc, ces fêtes des lanternes sont célébrées jusqu'aux 15 prochains jours. Et donc, c'est une façon, évidemment, pour la ville de pavoiser, bien sûr, hein, et d'annoncer par là même de la richesse. Le rouge est fondamental. On se marie en rouge. Tous les heureux événements, y compris la naissance d'un bébé, est célébré de rouge.
Et bah c'était un plaisir de pavoiser avec
beaucoup.
Vous, Emmanuel Linco.
Merci beaucoup à vous. Et bonne année de nouveau.
Mais oui,
belle année.
Je rappelle
à
que
tous.
Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur du premier MOOC, Massive Open Online Cursive, consacré à la géopolitique de la Chine contemporaine. Il débutera le 21 mars 2016. D'un mot, on peut s'inscrire. Ça consiste en quoi un MOOC pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors merci d'en faire de la publicité. C'est le premier MOOC dans le monde sur la géopolitique de la Chine. Et donc, vous pouvez suivre des cours en numérique, online, gratuit, où que vous soyez, du fin fond de l'Afrique ou du fin fond de la Creuse ou d'ailleurs. Vous pouvez suivre ces cours sur toutes les thématiques essentielles, développement durable, rapport entre la Chine et ses voisins, la Chine et les États-Unis. Et donc, c'est une grande première, évidemment, en France.
Il faut taper une adresse internet.
Oui, France Université Numérique, donc FUN, littéralement, géopolitique voilà. De la Chine, les trois mots-clés, et d'un clic, vous pourrez vous inscrire.
Vous écoutez RTL.